Chapitre 7. Soirée à l'épicier, les conjurés, le scapulaire, le secret, le trésor, le roman du colonel, où il est parlé pour la première fois de la noce. Le même soir, vers 11 heures, deux coupés de maîtres qui se suivaient montèrent le boulevard du Temple au milieu de la bruyante cohue qui encombrait les abords des théâtres. Les deux coupés s'arrêtèrent à l'endroit dit la Galiote, non loin des terrains, alors couverts de masure où s'élève maintenant le cirque Napoléon. De chaque coupé, deux hommes descendirent. Ils traversèrent le trottoir, puis la rue basse, pour aller dans la ruelle connue sous le nom du chemin des amoureux qui conduisait à l'estaminet de l'épicier. Ces quatre hommes, cependant, n'allaient point jouer la poule, car ils passèrent francs devant les rideaux de cotonnade rouge qui masquaient la porte vitrée du café Borgne et continuèrent de suivre la ruelle dans le coude qu'elle faisait sur la gauche. Tout de suite après le coude, il y avait une porte basse, donnant accès dans une allée plus noire qu'un four. Ce fut dans cette allée que nos quatre compagnons disparurent en hommes qui connaissent les localités. Pendant cela, il se faisait joyeux tapage dans la salle basse de l'épicier, où les habitués étaient fort nombreux. La reine Lampion, rouge et rogue, sommeillait à son comptoir, auprès d'un grand verre vide et troublé par l'eau-de-vie sucrée. Autour du billard à blouse, dont le tapis luisant comme une toile cirée avait quelques taches de plus que lors de notre dernière visite, les joueurs étaient de belle humeur. Cocotte, le radieux gamin de Paris, monté en graine, toujours gagnant, toujours vainqueur, et comparable aux ténors les plus célèbres par ses succès auprès des dames, avait fait des blocs superbes. Picpus, son ami, plus grave par l'âge, plus distingué par l'éducation, tenait le dé dans un groupe de causeurs où quelques lionnes, favorites de la mode, buvaient en fumant du caporal comme des duchesses. Ces demoiselles étaient un peu comme leurs cavaliers, parmi lesquels le paletot fraternisait volontiers avec le bourgeron. Il y avait parmi elles des élégances prétentieuses et fanées, et des toilettes franchement sans gêne. Il y avait de la soie et de l'indienne, des chapeaux flambants et des bonnets sales. Quelques-unes étaient jeunes et jolies, malgré l'effronterie uniforme qui déparait ici tous les visages, mais la plupart avaient derrière elles tout un long passé de cabrioles et la série des aventures qui les avaient plongées de chute en décadence jusqu'à ces ténébreuses profondeurs étaient écrites sur leur front en lisible caractère. Peut-être y a-t-il dans Paris des caves plus profondes encore, car nous aurions pu reconnaître dans le groupe présidé par Picpus un brave garçon à la laideur naïve et vaniteuse, coiffant ses cheveux jaunes d'un chapeau gris pelé, qui semblait être là en cérémonie, comme un petit bourgeois qu'on introduirait par hasard dans le plus pur salon du faubourg Saint-Germain. Amédée Similor, entraîné par sa nature frivole et son goût pour les plaisirs, oubliait ainsi ses devoirs de famille. Il avait réussi à se faufiler dans ce grand monde où il se tenait sur la réserve, choisissant ses paroles avec soin et ne se départant jamais des règles du beau langage. Les deux rougeaux de l'établissement Samaillou l'avaient abandonné sans doute, ou bien il les avait lâchés, car nous le retrouvons lancé dans une nouvelle intrigue d'amour avec une énorme gaillarde qui n'avait qu'un bras et qui portait un emplâtre sur l'œil. « J'en ai tous les brevets, lui disait-il, depuis ma tendre jeunesse. Danse des salons, pointe, contrepointe et caractère, dont M. Picpus, par suite de nos relations d'amitié, m'a dit qu'un jeune homme comme moi ne pouvait pas moisir dans la débine, malgré ses talents et ses connaissances, au moyen desquels, s'il y a une affaire, je peux m'y distinguer et monter au premier rang pour faire le bonheur de celle qui a su attirer mon regard. » Ils scandaient ces phrases fleuries avec le respect qu'on met à déclamer de beaux vers. « Ce qu'il y a, je n'en sais rien, » répondait en ce moment Picpus, à la question d'un paletot tout neuf qui n'avait pas de chemise. « L'ordre est venu, et je l'ai exécuté. Si c'est cette nuit ou demain qu'il fera jour, on vous le dira, mais la chose est sûre, c'est que nous ne couperons pas dans le drap noir cette fois-ci, car le coyatier n'est pas à sa place. » Chacun tourna les yeux vers le coin où le marchef s'asseyait d'ordinaire, sombre et seul. Sa table était vide. « Je vends ma bille 4 francs !» s'écria Cocotte. « Et c'est à moi la main. Personne n'en veut, adjugez !» Il se pencha sur le billard et fit son adversaire au doublé en allant coller sa propre bille sous bande à égale distance des deux blouses. La galerie applaudit. Cocotte prit cette pose du billardier triomphant et qui rappelle vaguement l'attitude des chevaliers appuyés sur leur lance. « Vous ne le savez donc pas, dit-il, que le marchef a été envoyé là-bas au vert après l'affaire de la canne à pomme d'ivoire. C'était monté un peu joliment, cette histoire-là, et le camarade qui avait démoli la serrure de Hans Spiegel savait son état. L'imbécile qui paie la loi en ce moment demeurait de l'autre côté de la serrure, et le marchef se chauffe au soleil maintenant, dans les propriétés de la compagnie, pendant que nous avons l'onglet à Paris. » « La loi n'est pas encore payée, répliqua Picpus, et je connais quelqu'un qui voudrait bien trouver un bâton pour le jeter dans nos roues. » Il montra du doigt 6 000 ors et ajouta « Voilà un bon garçon que j'ai embauché pour savoir un peu ce qui se passe chez Madame Veuve Samayou, qui vendrait sa baraque et mettrait par-dessus le marché le feu aux 4 coins de Paris pour sauver le petit lieutenant. » 6 000 ors remonta le lambeau qui lui servait de cravate et mouilla son doigt pour lisser ses cheveux. « Ce n'est pas mon habitude, dit-il, de fréquenter la bonne classe, mais par suite des circonstances, pour utiliser dans le malheur des brevets, à qui, lorsque je fréquentais une autre catégorie d'artistes, Porte Saint-Germain, Opéra et autres, j'ai pu abaisser mon orgueil jusqu'au théâtre en plein vent. Il n'y a pas de saut métier, mais... on ne s'affectionne qu'avec les gens de son propre rang, et, la veuve Samayou ne m'étant de rien, je dévoilerai ses mystères avec plaisir. » Certes, Échalot était une douce créature, mais s'il avait entendu son Pylade parler ainsi, il y aurait eu une tête cassée, et pour le coup, Saladin aurait été orphelin. Personne ne répondit à 6 000 ors, parce qu'un timbre placé derrière le comptoir tinta un coup unique et retentissant. La reine Lampion, éveillée en sursaut, ouvrit ses yeux sanglants qui clignotèrent, blessés par le gaz. Les joueurs de billard arrêtèrent leur partie et un grand silence régna dans l'estaminet. Un garçon, la serviette sur le bras, s'était élancé vers l'escalier en colimaçon qui conduisait au cabinet particulier situé à l'entresol et connu sous le nom du confessionnal, mais il fut arrêté au passage par Cocotte qui se tourna vers la dame du comptoir et lui dit « À vous, maman Rogomme, et plus vite que cela !» On vit alors la reine Lampion quitter le siège où elle semblait river depuis le matin jusqu'au soir et gagner l'escalier à vis qu'elle monta en geignant. Quand elle était hors de son rôle, la reine Lampion perdait 100%. C'était un hideux paquet de graisse rhumatisée et nous ne saurions mieux la comparer qu'au vieux lion de Léocadie Samayou. Elle parvint enfin au haut de l'escalier et disparut derrière la porte fermée. C'est drôle que monsieur l'amitié n'a pas passé par l'estaminet comme à son ordinaire, dit Cocotte. Ça veut dire qu'il est venu avec des gens qui ne sont pas pressés de se montrer, répliqua Picpus en baissant la voix. On va savoir la chose tout de suite. Attendons. 6 000 ors était impressionné favorablement. Il murmura. Ça fait quelque chose de se trouver sous le même toit que les grands de la terre. La reine Lampion reparut au haut de l'escalier. L'écarlate de sa joue passait au violet. Ce fut d'une voix un peu tremblante qu'elle commanda « Du punch, en haut et en bas, allume, Polyte !» Polyte était le garçon de confiance qui tirait les numéros à la poule. « Bravo !» cria 6 000 ors, dont l'enthousiasme n'eut point d'écho. « Vive le punch !» Cocotte avait monté 3 ou 4 marches de l'escalier à la rencontre de la grosse femme. « Il y a du tabac » demanda-t-il. « Oui, « Prends garde d'éternuer, » répliqua la reine Lampion d'un air rogue. Picpus s'approcha pour demander à son tour « Combien sont-ils ? » « Ils sont 4. « Les connais-tu ? » « Ils ont le voile. » La reine Lampion ajouta tout à haut « 4 verres pour le confessionnal, Polyte. » L'aspect général de l'estaminet avait entièrement changé. Hommes et femmes semblaient pris d'une anxiété pareille et on entendait dans les groupes ces mots qui couraient. 4 voiles à la fois, À quel diable de besogne va-t-on nous envoyer cette nuit ? Si Milord avait seul pris une pause de matamor pour dire à sa voisine « Le punch est la boisson que je préfère, bien chaud et pas trop baptisé. Si l'occasion est venue d'affronter les bourgeois ou la force armée, vous pourrez voir le caractère de celui qui se propose de vous fréquenter, et dont rien n'est capable d'étonner son courage ni son amour. » La reine Lampion n'avait pas regagné son comptoir. Elle s'était assise sur la dernière marche de l'escalier pour attendre Polyte qui lui remit en main le plateau supportant le bol et les quatre verres. Elle prit le tout et remonta. Quand elle revint pour la seconde fois, on trinquait déjà autour des deux énormes bassins qui flambaient. Elle fit signe à Polyte. Le garçon vint à elle et lui dit « Il n'y a d'étranger que l'oiseau là-bas avec son chapeau gris. C'est Monsieur Picpus qui l'a amené. » Si Milord, en proie à l'exaltation du zèle, levait justement son verre et s'écriait « À la santé de mes supérieurs ! Pour leur être agréable, je marcherai jusqu'à la mort !» La manchotte de ses rêves lui répondit « Ce permis d'être bêtasse, mais pas tant que cela, à moins que vous ne soyez ici de la part du gouvernement. » La reine Lampion, à cet instant, se replongeait tout au fond de son trône avec un grognement voluptueux et étendait son grand verre à Polyte qui l'emplissait jusqu'au bord. « On va éteindre et fermer, dit-elle. Tout un chacun aura la bonté de rester jusqu'à ce qu'on lui donne la clé des champs. Il fait jour. »« Vive la ligne !» s'écria Similor. « Les ténèbres est favorable à la sensibilité. Je vas taquiner les dames. » Il en aurait dit plus long, sans le point de cocotte qui, d'un seul coup, lui enfonça son chapeau gris jusqu'au menton. Quand il parvint à se débarrasser de son couvre-chef, bandeau et bâillon à la fois, la scène avait encore changé. Polyte achevait de barrer la devanture, le gaz était éteint partout. La flamme du punch seule éclairait de ses lueurs livides toutes ces faces de bandits, anxieuses et sombres. À l'étage supérieur, autour d'un autre bol de punch, les quatre voiles, comme la reine Lampion les appelait, étaient réunis. Chacun d'eux avait encore devant soi, sur la table, le carré de soie noire qui naguère couvrait son visage. Les verres étaient remplis, mais nul n'y avait encore porté ses lèvres. Ils étaient tous les quatre de notre vieille connaissance, et nous les nommerons par rang d'âge, Monsieur de Saint-Louis, le médecin Samuel, le docteur en droit Portal-Girard, et Monsieur Lecoq dans son costume de Toulonnais-l'Amitié. Le confessionnal était exactement tel que nous le vîmes le soir où fut réglée la lugubre comédie qui se termina par l'assassinat de Hans Spiegel dans son garni de la rue de l'Oratoire et par l'arrestation de Maurice Pagès à l'hôtel d'Ornan. Au moment où nous entrons, nos quatre compagnons avaient dû causer déjà de leurs affaires, car la discussion était fort animée. La présidence semblait appartenir au prince, mais Portal Girard tenait le haut bout comme orateur, et M. Lecoq, contre son habitude, affectait une sorte de modération indifférente. Le docteur Samuel, encore plus calme, se bornait à juger les coups. La parole était à Lecoq, qui disait, en haussant les épaules, « Que voulez-vous? C'est peut-être de la superstition, mais voilà 20 ans que je regarde ce bonhomme-là dans le blanc des yeux. Chaque matin, je crois enfin le connaître, et chaque soir, je m'aperçois que je ne suis pas seulement au milieu du rouleau. »« Quand les rouleaux sont trop longs, dit sèchement Portal Girard, il y a un moyen, on les coupe. »« Pour couper celui-là, murmura Lecoq, faites bien attention à ce que je vous dis, il faudra de fameux ciseaux. » « Combien de temps lui donnez-vous encore à vivre, Samuel ?» demanda le prince dans un but évident de conciliation. « Je ne sais plus, répliqua le médecin. Ces corps où il n'y a pas de sang et dont la chair s'est transformée en parchemin peuvent végéter des mois et des années. « S'il dure seulement 2 semaines, s'écria le docteur Androy, dont le poing fermé frappa la table avec violence, nous sommes tordus, mes camarades. » « Cette affaire du petit lieutenant est mauvaise, mal prise, absurdement conduite. »« Ta, 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 » fit Lecoq, « ce qui était vraiment dangereux, c'était l'histoire de ce Remy d'Arx. Ne soyons pas injustes non plus, le père a débrouillé cet écheveau-là comme un ange, et nous lui devons une fière chandelle. »« Ma parole, » fit Portal Girard, « c'est curieux comme il vous tient, ce vieux coquin-là. Toutes ces vessies, vous les prenez pour des lanternes. » Remy d'Arx, c'est fini, c'est vrai, mais il reste une queue à cette affaire-là. Notre ami Samuel est un savant praticien qui mérite toute notre confiance, et cependant, Remi Dax, après avoir été déclaré mort par notre ami Samuel, a vécu encore 2 fois 24 heures. Entendons-nous, riposta le médecin, son agonie a duré 2 jours, c'est vrai, mais il n'a recouvré ni le mouvement ni la parole. Qu'en savez-vous? Êtes-vous resté près de son lit? La justice n'a rien pu obtenir, voilà tout ce que vous pouvez affirmer, mais il y avait à son chevet un vieux serviteur. Parbleu, si le bonhomme Germain vous gêne, interrompit le coq. Il n'acheva pas, mais son geste fut suffisamment expressif. Le docteur en droit fixa sur lui son regard clair et tout brillant d'intelligence. « Voilà ce que vous appelez débrouiller un écheveau, mon bon, c'est mettre à la place d'un écheveau brouillé 2, 3, 4 écheveaux. Comptons sur nos doigts, car les pires sourds sont ceux qui ne veulent pas entendre. Et je m'étonne beaucoup, mais beaucoup, que vous ayez besoin de tant d'arguments pour vous rendre à l'évidence. À la place de l'écheveau qui s'appelait Remi Dax, nous avons Valentine de Villanovay, ou plutôt Valentine Dax, car mieux que personne, vous savez qu'elle est véritablement la sœur du mort. Nous avons Maurice Pagès, et il y a 100 à parier contre un que ces deux-là connaissent notre secret. Nous avons en outre Madame Veuve Samaillou, qui connaîtra notre secret demain, si on ne le lui a pas dit aujourd'hui. Nous avons enfin le vieux Germain, dont vous parlez fort à votre aise et que vous m'engagez à supprimer s'il me gêne. Ce n'est pas moi qui le gêne, mon bon, c'est vous, c'est nous, c'est l'association tout entière. À force de jouer au fin, cet esprit qui était véritablement fort autrefois et lucide et plein de ressources, je n'ai pas l'intention de le rabaisser, en est arrivé à des subtilités enfantines, à des complications séniles. Il s'amuse, ce vieux diable, avec le crime, comme un calculateur hors d'âge se donne encore la migraine à tourmenter les jeux de casse-tête. La ligne droite lui déplaît, il fait 1000 tours et 1000 détours futiles, sous prétexte de cacher la piste de ses pas, sans comprendre que chaque tour et chaque détour produit une piste nouvelle. Écoutez, un apologue, j'avais un oncle qui était voiturier dans le Quercy, un pays terrible pour les essieux. Mon oncle avait commandé un essieu en acier fondu à la forge de Cahors, et l'essieu dura très longtemps, malgré les roches et les ornières. Mais un beau jour, son valet lui dit « L'essieu s'en va, il faudrait le changer ». Mon oncle se fâcha, un si bon essieu qui avait résisté à tant de chaos. Je crois même que mon oncle renvoya son valet. Mais un beau jour, l'essieu qui avait trop servi se rompit et mon oncle eut les reins brisés. Vous pouvez me renvoyer si vous voulez, comme le valet de mon oncle, mais je vous dis que votre colonel, fût-il en acier fondu, a servi de trop et qu'il est temps de le remplacer. Par qui ? Demanda le coq. Il regarda tour à tour ses 3 compagnons qui détournèrent les yeux. Si c'est par moi, reprit-il avec une rondeur effrontée qu'il affectait en certaines occasions, je veux bien. Si c'est par l'un de vous, je demande le temps de la réflexion. » Le premier qui releva ses yeux sur lui fut Portal Girard. « L'amitié, dit-il, mon brave, réfléchis d'abord à ceci. Tu n'es pas en force contre nous. »« Ah !» fit le coq, « vous m'aviez donc appelé à donner mon avis quand vous étiez décidé d'avance ?»« Pour ceux qui me regardent, oui, » répliqua Portal Girard. « Tu vois que je te parle franchement. » Pour ceux qui regardent nos amis, interroge-les, et ils te répondront. À vous, sire, dit le coq, sans rien perdre de sa bonne humeur ironique, je serais heureux de connaître à fond l'opinion de votre majesté. Il y a du bon dans ce qu'a dit Portal Girard, repartit monsieur de Saint-Louis. Le colonel se cherche la petite bête, et je penche à croire que la parabole de l'essieu vient à point. Mais ce n'est pas cela qui me détermine. « Ah !» fit encore le coq. « Alors, vous êtes déterminé ?»« À peu près, et voici pourquoi. Le père a plus d'esprit dans son petit doigt que nous dans toutes nos personnes. Mais enfin, nous ne sommes pas des cruches non plus. Et s'il nous espionne depuis le matin jusqu'au soir, avec un soin qui fait son éloge, nous avons bien le droit aussi de regarder un petit peu, de temps en temps, par le trou de la serrure. » J'ai regardé, ou j'ai fait regarder, ceci importe peu, et j'ai acquis la conviction que la dernière marotte de notre bien-aimé maître, qui a promis à chacun de nous en particulier sa succession entière, hein, plutôt 10 fois qu'une. Pas mal, pas mal, interrompit le coq en souriant. Le prince est plus observateur que je ne le croyais. Voyons, fit Samuel, cette misérable comédie de son héritage n'est-elle pas une preuve manifeste de sa décadence? Vous en êtes aussi donc, docteur? Demanda le coq, visiblement ébranlé. Nous en sommes tous, s'écria Portal Gérard. Nous avons assez de ce bric-à-brac. Si ce n'était qu'un vieux coquin, à la bonne heure, mais c'est un vieil idiot. Nous voulons un autre essieu.
Bigre, bigre, murmura le coq, les choses me paraissent fort avancées. Seulement, le prince ne nous a pas dit ce qu'il a vu par la serrure de notre vénéré père.
J'ai vu, répondit monsieur de Saint-Louis, que notre vénéré père, soit qu'il compte vivre éternellement, soit qu'il s'abandonne à mourir comme tout le monde, veut emporter avec lui le trésor des habits noirs, que j'évalue à plus de 20 millions, en nous laissant nus comme des petits Saint-Jean en face de la justice charitablement avertie.
Il doit y avoir en effet plus de 20 millions, dit Samuel.
Pourquoi pas 1 milliard, puisque nous y sommes, grommela le coq. Le docteur en droit fit un geste de colère, mais M. de Saint-Louis prit la parole tranquillement et dit « Toulonnais, mon vieux, tu es le plus ancien de la maison, et nous aurions voulu t'avoir avec nous. Tu peux bien remarquer qu'on ne s'est pas embarrassé ici, ni de Corona, ni de l'abbé, ni de la comtesse de Clare. Toi seul as été convoqué. » Mais il ne faudrait pas te mettre en tête que tu es un homme nécessaire. Nous nous passerons de toi, parfaitement. Voilà 3 semaines que nous travaillons l'association comme on brasse de la pâte. Nous nous sommes mis en rapport avec ceux du second degré, et nous tenons les simples dans notre main.
Pas possible, gronda le coq. Alors, ça brûle.
Tu peux en juger. Il fait jour en bas cette nuit. Est-ce toi qui as battu le rappel?
Non, mais êtes-vous bien sûr que le père n'a pas entendu le tambour?
Personne ne répondit, et il y eut comme un malaise parmi les membres du conseil, tout à l'heure si résolu. Le coq avait une figure à peindre, on eût dit d'un inventeur qui, au moment de prendre son brevet, trouve son concurrent arrivé avant lui au ministère.
La première fois que j'ai eu cette idée-là, prononça-t-il enfin à voix basse, j'entends l'idée que vous avez. Il n'était pas encore question de vous, mes braves, et cette idée-là, d'autres l'avaient eue avant moi. On rit quand on parle de la corde de pendu que le bonhomme a dans sa poche. On rit quand on dit que le bonhomme est le diable, moi tout comme les autres. Mais, à l'exception de moi, qui n'ai jamais dit mon secret à personne, tous ceux qui ont eu cette idée-là sont morts.
Ah bah, fit Portal Gérard, ceux qui sont morts s'étaient attaqués à un homme plein de force. Et il n'y a plus qu'un agonisant en face de nous.
Alors, pourquoi ne pas attendre?
Parce qu'il mourra comme il a vécu, et que sa dernière plaisanterie sera de faire sauter l'association comme une poudrière.
Le coq avait pris un air sérieux, et ses sourcils étaient froncés profondément.
S'il a eu cette fantaisie-là, dit-il, je l'en crois bien capable. L'association sautera, j'en réponds.
Il ne reste pas grand-chose de lui, j'en conviens, mais tant qu'il y aura de lui un petit morceau gros comme le doigt, prenez garde.
Vous souriez, les autres souriaient aussi, ceux qui sont morts.
Si j'étais avec vous contre lui, ce serait une curieuse bataille, car je sais peut-être où est le défaut de sa cuirasse. Si je suis avec lui contre vous, ou seulement neutre, je ne donne pas 2 sous de votre peau. Nos intérêts sont communs, voilà le vrai. Ne nous fâchons donc pas, si c'est possible, et discutons amicalement. Le vrai, c'est encore qu'il y a beaucoup d'argent, non point en caisse, mais dans quelques trous. 10 millions, 20 millions, 30 millions, je n'en sais pas le compte. Le vrai, c'est enfin que le père a pu avoir l'intention d'enterrer le trésor et l'association du même coup. Il est de ceux qui disent, après moi, la fin du monde.
Vous avouez cela et vous hésitez, s'écria Portal Gérard.
J'hésite parce que je ne sais pas.
Nous savons, nous.
Alors parlez, au lieu de menacer. Parlez, je vous écoute.
Portal Gérard et le prince regardèrent Samuel, qui dit avec une répugnance visible,
« Entre gens comme nous, il n'y a pas d'écrit possible. À quoi servent les pactes, quand même ils sont signés avec du sang? Je ne connais pas le moyen de lier l'amitié, et si l'amitié ne joue pas franc jeu, nous sommes perdus. »
Le coq se mit à rire, et lui tendit la main au travers de la table.
« Ah, toi, docteur, dit-il, tu commences à comprendre le néant des pilules, comme nos braves amis reconnaissent l'inutilité du couteau, vis-à-vis de certains gaillards, bien entendu, car le commun des mortels restera toujours vulnérable. Je joue franc jeu, puisque je discute. N'aurais-je pas pu, dès le premier coup, vous dire « Top, je suis avec vous ». Je joue franc jeu, puisque j'ajoute « Ne comptez pas trop, mes bons frères, sur le troupeau qui s'abreuve du ponche en bas, car ni vous ni moi, nous ne savons pour qui il fait jour en ce moment sous nos pieds. » Son talon frappa le carreau, et, comme si c'eût été un signal, une sourde clameur monta de l'étage inférieur. Tous les verres restaient pleins, excepté celui de Lecoq, qui avait déjà été vidé trois fois. Au début de la réunion, ses compagnons croyaient le sentir sur la sellette, mais les choses avaient tourné au cours de l'entretien, et maintenant Lecoq était le seul qui ne montra ni embarras ni défiance. « Chacun est ici pour soi, dit-il en remplissant pour la quatrième fois son verre. En nous pilant dans un mortier, le docteur, qui est pourtant un habile chimiste, ne trouverait pas un atome de préjugé. On nous appelle des coquins. Je connais assez mon pari pour savoir que les 19/20 de ceux qui s'intitulent honnêtes gens sont exactement dans la même position que nous. Je ne cache pas que j'avais une frayeur. L'homme est un animal vaniteux et ambitieux. Je me disais, oh, ce vieux farceur de colonel a glissé à l'oreille de Portal Girard, tu seras mon successeur, à l'oreille de Monsieur de Saint-Louis aussi, à l'oreille de son bon Samuel de même. Si cette idée a germé dans leur cervelle, comme elle aurait pu germer dans la mienne, le gâchis est complet. Et notre vénérable papa n'aura qu'à nous enfermer ensemble pour que nous nous entre-dévorions. Or, nous étions ici enfermés ensemble, et j'ai cru que la dînette allait commencer. Mais pas du tout. Au lieu d'enfants gourmands, je trouve des gens raisonnables. À ma question nettement posée, « Qui sera le maître ?» on m'a nettement répondu, « Il n'y aura plus de maître. » À cette autre demande, « Que deviendra l'association ?» Réponse, « Nous nous en moquons comme du roi de Prusse. » L'association était destinée à gagner de l'argent. Il y a de l'argent, nous partageons le magot en quatre. Et puis, nous nous souhaitons mutuellement bonne chance. Est-ce bien cela ?
C'est bien cela, répondirent en même temps les trois autres associés.
Mes braves amis, reprit le coq, car nous sommes véritablement des amis, depuis 5 minutes, le magot est assez lourd pour contenter l'appétit de chacun de nous. Et le monde est assez vaste pour que nous y puissions trouver un endroit où nos anciens camarades ne viendront point nous chercher. Parlons donc sérieusement désormais, et mettons de côté les petites découvertes que chacun de nous a cru faire. Le colonel laisse traîner, comme cela, des mystères mignons pour éveiller la curiosité de ceux qui l'entourent. Mais moi je suis de sa maison, il y a 20 ans que je suis de sa maison. Vous connaissez le proverbe qui dit « Il n'est point de grand homme pour son valet de chambre ». Le proverbe a menti cette fois. J'étais le valet, puis le secrétaire du colonel Bozzocorona. Et je déclare que c'est un grand homme, un très grand homme, un plus grand homme que les grands hommes qui découvrent par hasard l'imprimerie, l'Amérique ou la vapeur. Il a trouvé, par le calcul des probabilités, un truc qui garantit le meurtre et le vol contre les chances de châtiment. Il a inventé l'assurance en cas de scélératesse.
« Nous savons tous cela, » murmura Portal Girard avec impatience.
« Savez-vous aussi... « Le secret des habits noirs ?» demanda le coq, dont les lèvres se relevèrent en un sourire ironique. Tous les regards exprimèrent une avide curiosité.
« Non, n'est-ce pas ?» poursuivit le coq. « Le colonel Bozzo n'avait pas seulement à défendre son œuvre contre les moyens myopes et enrhumés du cerveau que nos gouvernements payent très cher sous le nom de justice, de police, etc. Il avait à défendre son œuvre contre ses propres ouvriers. » L'univers a bien vieilli depuis 4000 ans, mais l'homme est resté enfant, et les solennelles momeries, qui étaient le fond des mystères de l'Antiquité, se sont perpétuées à travers les âges.
de sorte que les mauvais plaisants du sanctuaire d'Éleusis et des temples d'Isis ont eu des héritiers directs au fond des forteresses où radotaient les francs juges d'Allemagne, comme dans les cavernes où les camorres de l'Italie du Sud bourraient leurs trabucos en aiguisant leurs poignards. Le colonel n'est pas encore assez vieux pour avoir fréquenté les saintes Vêmes, mais il a commandé en chef les bandes calabraises à la fin du siècle dernier, et l'Europe entière l'a connu sous le nom de Fra Diavolo.
Fra Diavolo, répétèrent avec le même accent d'incrédulité les trois maîtres, quel conte.
On dit cela, poursuivit le coq froidement. Moi, je ne connais que le Fra Diavolo de l'opéra comique, et les biographies prétendent que ce célèbre chef des Camorres fut exécuté à Naples en 1799. Mais en Corse, où j'ai passé ma jeunesse, il y avait de vieux bandits qui frottaient encore leur chapelet contre la manche du colonel quand il voulait avoir une amulette bénie par le démon, et ils l'appelaient entre eux Michel Pozza, qui est le nom historique de Fra Diavolo. Quoi qu'il en soit, il rapporta parmi les habits noirs le secret, le grand secret des prêtres égyptiens, des hiérophantes, des druides, des francs chevaliers et des libres soldats de l'Apennin. Ce fut, pendant de longues années, son prestige, qui dure encore. Il était le seul à connaître le secret gravé à l'intérieur des deux médaillons qui forment le scapulaire des maîtres de la Merci. Je l'ai eu entre les mains, le scapulaire de la Merci. Je suis curieux, je l'ai ouvert, et je connais le secret. Je ne demande pas mieux que de vous le dire. C'est un mot, un seul mot, répété en une très grande quantité de langues, dont la plupart me sont inconnues, et quand mes yeux tombèrent sur les lettres hébraïques qui commençaient la série, je crus qu'elles exprimaient le nom de Dieu. Cependant, les lettres arabes qui suivaient ne disaient point « Allah ». Je me souviens des caractères grecs disposés ainsi, « Uden ». Le latin, que je compris, disait déjà « Nihil », et puis venait l'allemand « Nix », l'anglais « Nothing », l'italien « Niente », l'espagnol « Nada », et, pour vous épargner les autres langues, le français « Rien ».
C'est là le secret des habits noirs, s'écria monsieur de Saint-Louis.
Néant est le contraire de Dieu, murmura Samuel. Je ne déteste pas cette idée-là, mais elle ne nous rapportera pas grand-chose.
Je le pensais ainsi, répliqua monsieur Lecoq, puisque je remis fidèlement le scapulaire à sa place. Mais n'ayant plus de secret à chercher, tout mon flair se reporta sur le trésor.
Ici je vais vous intéresser davantage. Le trésor n'est pas, comme vous l'avez cru, un amas d'or et d'argent déposé ici ou là, et probablement, selon mon opinion première, dans les caves du couvent de Sartène, où le maître fait son pèlerinage une fois l'an. Le trésor est dans une petite cassette que chacun de nous pourrait porter sous son bras.
« Ce sont des diamants, dit Samuel, dont les yeux brillèrent.
« Non, répliqua le coq.
« Ce sont des titres de dépôt, demanda Portal Girard.
« Non, répliqua encore le coq.
Un pareil coffret, objecta monsieur de Saint-Louis, ne peut pourtant pas contenir une bien grosse somme en billets de banque.
Le Royal Exchange d'Angleterre repartit le coq à des banknotes depuis 5 livres jusqu'à 1 million de sterling. On en connaît 3 de cette somme, et feu le prince de Galles, qui possédait, dit-on, un exemplaire de cette glorieuse estampe, pouvait emporter avec lui 25 millions de francs dans le tuyau de plumes qui lui servait de cure-dent.
« Ces Anglais, dit Portal Girard, quel grand peuple !»«
Je ne pense pas, poursuivit monsieur Lecoq, que notre cassette, car elle est bien à nous, contienne les billets de banque de 25 millions, mais je sais qu'elle renferme des valeurs anglaises pour une somme énorme. » À supposer même que le père ait fait plusieurs parts du trésor, ce qui est assez dans son caractère, tous les œufs d'un finot tel que lui ne pouvant être mis dans le même panier, c'est encore ici que doit être le bon tas. Je vais vous en dire la raison. J'ai cru longtemps que le colonel était au-dessus de la nature humaine, par ce seul fait qu'il n'y avait point en lui cette chose agréable mais compromettante qu'on appelle un cœur.
« Il n'en a pas !» s'écria Samuel.
« Il n'en a jamais eu !» appuyèrent les deux autres.
« Vous vous trompez. Nul n'est parfait ici-bas.
Depuis près de 100 ans, notre vénéré maître a trahi tous ses amis, dévalisé toutes ses connaissances et envoyé dans un monde meilleur la plupart de ceux qui l'ont servi. Mais il y a néanmoins dans un petit coin de son antique carcasse un objet quelconque qui lui tient lieu de cœur. Je l'ai vu pleurer une fois qu'il se croyait seul, pleurer de vraies larmes au chevet d'une enfant que les médecins avaient condamnée. Fanchette parbleu, fit le docteur en droit qui haussa les épaules. Il aime sa Fanchette comme ma portière caresse son chat. Et il l'a donnée au plus lâche coquin de la bande, ajouta Samuel. C'est elle qui le voulut, repartit le coq. En ce temps, le comte Corona était beau comme un astre, et il chantait le rôle d'Almaviva dans le barbier avec une voix qui valait 100 000 écus de rente. Mais ne nous égarons pas dans les détails. Que le père aime sa Fanchette comme une perruche ou comme un bichon, peu importe, le fait est qu'il l'aime, et qu'il lui a préparé un splendide avenir. Moi, qu'il n'aime pas, mais dont il a besoin sans cesse, je suis un peu l'esprit familier de sa maison. Il hésite à m'étrangler parce que je le tiens comme une habitude, et il est venu à ne plus faire attention à moi davantage qu'aux meubles de son hôtel. J'ai en outre quelques petites intelligences dans la place, et la femme de chambre de ma belle ennemie, la comtesse Corona, me fait son rapport quotidien. Voilà ce que j'ai appris avant-hier. La veille, vers 8 heures du soir, le père avait eu une crise terrible. Son médecin, appelé en toute hâte... « Comment, son médecin ?» interrompit Samuel. « Ah, ça, bonhomme, répliqua le coq, as-tu jamais cru que le père avalait tes drogues ?»« Je l'ai toujours soigné en toute honnêteté, » répondit sérieusement Samuel. « Mais tu as toujours nourri l'espoir que, dans un cas pressant, il te suffirait d'une bonne potion pour en finir, et tu as fait partager ton espoir aux autres. Il faut rayer de ça de tes papiers. » « Je continue. » Le médecin a eu toutes les peines du monde à dominer la crise, et je crois qu'il a conseillé à son malade de mettre ordre à ses affaires. Quand le médecin a été parti, on a renvoyé tout le monde, et le père est resté seul avec Fanchette. Vous savez qu'elle couche depuis quelque temps dans le grand cabinet voisin de la chambre du colonel. Vous ne tenez pas absolument, n'est-ce pas, à savoir par quelle fente de boiserie ou par quel trou de serrure j'ai surpris ce qui va suivre. L'important, c'est que je l'ai surpris et que j'en garantisse l'exacte vérité. » Le coq avala son 5e verre de punch et reprit. « L'idée que vous avez d'ouvrir la succession de notre bien-aimé maître, je l'avais avant vous, mes chers collègues. Je ne vous accuse pas de me l'avoir volé, les beaux esprits se rencontrent, voilà tout. Le père est bien éloigné d'avoir baissé autant que vous le croyez, mais il y a en lui de l'enfant, c'est certain, comme chez tous les hommes de génie. Il a toujours été enfant, cherchant le roman dans ses combinaisons les plus sérieuses, et j'ajoute que ces combinaisons ont presque toujours réussi par leur côté enfantin. C'est la loi du succès. Les imaginations trop ingénieuses sont comme les livres trop bien faits, elles ne réussissent pas. Le dernier roman du père à tous, ou plutôt sa dernière affaire, pour parler son langage, a dû être l'objet de tous ses soins. Il y avait en lui 2 mobiles également passionnés, l'envie d'assurer à sa Fanchette un brillant, un paisible avenir, et le besoin de nous jouer un tour suprême. C'était arrangé depuis des mois, depuis des années peut-être. Donc il y a 3 jours, le colonel fit asseoir la comtesse Corona auprès de son lit et lui traça, comme on raconte une anecdote, le tableau de son existence future. Il existe à la Nouvelle-Orléans une famille française d'origine qui occupe une position énorme. Le fils aîné de cette maison faisait l'an dernier son tour d'Europe. Le colonel Bozzo et sa petite Francesca Corona passaient à Rome le mois le plus rude de l'hiver. Le colonel a des précautions à garder en Italie, non seulement par suite de son passé, mais encore à cause de certains hauts faits plus modernes accomplis par le comte Corona à son gendre. Sous prétexte d'incognito, il était à Rome monsieur le marquis de Saint-Pierre, et Fanchette était mademoiselle de Saint-Pierre. L'Américain la vit et en devint éperdument amoureux. Fanchette a le cœur sensible. Elle allait voguer à pleine voile sur les fleuves du Tendre, lorsque le maître qui avait son dessein l'arrêta net et l'enleva pour la ramener en France. Avant de partir, néanmoins, il avait eu, lui, le colonel, une conférence avec le jeune Américain, qui s'était déclaré et avait demandé la main de Mademoiselle de Saint-Pierre. Depuis lors, le colonel et lui sont en correspondance. C'est un mariage arrêté entre les deux familles. Du vivant de Corona, demanda Samuel. Sous la main du père, répondit le coq, Corona est comme nous tous un brin de paille qu'il peut briser au premier caprice. Ce que je viens de vous dire est de l'histoire. Passons au roman. Dans le petit poème récité à Fanchette il y a 3 jours, Corona était mort d'une fièvre cérébrale ou d'une fluxion de poitrine. Le colonel n'a même pas pris la peine de choisir la maladie qui tuera ce comparse. Faites comme le colonel, supposez que Fanchette est veuve, puisqu'elle le sera quand le colonel voudra. Il y a une dame anglaise, toute prête, convenable au plus haut point, joli nom, possédant les façons du meilleur monde, et qui conduirait Fanchette à la Nouvelle-Orléans avec tous les papiers constatant l'état civil de Mademoiselle de Saint-Pierre, y compris l'acte de décès de son vénérable aïeul. Le reste va de soi. Le mariage fait, voile impénétrable jetée sur le passé, existence princière au sein d'une des plus riches et des plus honorables familles du monde entier. Avez-vous quelque chose à dire contre cette combinaison? Quand le père eut achevé de raconter cette anecdote, que j'appellerai préventive, il remit entre les mains de la comtesse le fameux coffret et lui ordonna de le serrer dans sa chambre. Et cet ange de Fanchette accepta, demandèrent à la fois les 3 habits noirs, le rôle virginal de Mademoiselle de Saint-Pierre. Je n'en sais rien, répondit le coq, mais le coffret, assurément, oui. Et c'est là, veuillez le remarquer, le seul côté de la question qui nous intéresse. Vous savez désormais où trouver le trésor de la Merci, qui est notre patrimoine. Laissons à l'écart tout le reste et délibérons sur la question de savoir comment nous nous emparerons du trésor de la Merci. Le docteur en droit se frotta les mains et dit « Pour la première fois, depuis bien longtemps, nous voilà en face d'une opération nette et claire. L'amitié vient de nous rendre un grand service. Je propose qu'il ait sa part, plus une prime. »« Accordé !» firent les 2 autres. L'amitié salua. « J'accepte la prime, dit-il, mais ce que je voudrais surtout, c'est ma part. Ne vendons pas trop vite la peau de l'ours. L'affaire est nette et claire, c'est vrai, mais elle n'est pas encore dans le sac. Cette fois, songez-y bien, il ne faut rien laisser derrière nous. »« C'est un compte à établir, dit tranquillement Monsieur de Saint-Louis, du moment que nous ne nous embarrasserons plus dans les subtilités dont abusait le maître, on verra ce qu'il faut et on taillera dans le vif. » Le lieutenant mourra en prison, Valentine mourra dans son lit, et cette maman Léo, comme on l'appelle, au coin d'une borne. Restent nos 4 associés, dit Samuel. Chacun de nous se chargera de l'un d'eux, répliqua le docteur en droit. Je prends Corona, choisissez les vôtres. Et Fanchette, demanda le coq. Je prends Fanchette par-dessus le marché, dit Portal Girard, en proie à une fiévreuse exaltation. C'est un dernier coup de collier à donner, après quoi nous sommes riches, puissants et honnêtes. Et le colonel, demanda encore le coq, qui baissa la voix malgré lui. Personne ne répondit. Aucun bruit ne montait plus de l'étage inférieur. Au milieu du silence qui avait quelque chose de solennel, on put entendre 3 petits coups frappés avec précaution, mais distinctement, à la double porte qui défendait l'entrée du cabinet, dit le confessionnal. Les 4 conjurés se regardèrent. Ils étaient pâles et des gouttes de sueur perlaient à leur front. Portal Girard dit le premier, « C'est un maître. » On frappa encore et cette fois d'une façon plus distincte. Involontairement, Monsieur de Saint-Louis, Samuel et le docteur en droit se mirent debout. Le coq resta seul assis et rectifia de cette sorte la dernière parole de Portal Girard. « Ce n'est pas un maître, dit-il d'une voix basse mais ferme, c'est le maître. »« N'ouvrons pas, opina Samuel. » Monsieur de Saint-Louis et le docteur en droit répétèrent « N'ouvrons pas. » Mais le coq, se levant à son tour, fit un pas vers la porte et dit « Tous ceux qui sont en bas appartiennent au père avant de nous appartenir. Nous sommes pris au piège, mes camarades. Si le maître a un doute, aucun de nous ne sortira d'ici. » Pour la troisième fois, on frappa à la porte extérieure avec une certaine impatience. Les trois habits noirs retombèrent sur leurs sièges. « Vous avez donc bien peur de lui ?» demanda le coq en se redressant. « Vous avez raison, et moi aussi j'ai peur. Mais nous nous demandions tout à l'heure qui se chargera de lui. Nous sommes quatre, et il est seul. Il est mourant et nous sommes forts. Allons, souriez, mes frères, si vous pouvez. L'occasion est belle. Il s'agit de bien jouer notre jeu. » Les trois habits noirs ne prenaient point la peine de cacher leurs troubles, et les regards qu'ils échangeaient témoignaient de leur profonde indécision. Pendant que le coq ouvrait la première porte, Samuel dit à voix basse, « Le coq doit être de son bord. »« Non, répondit Portal, car le coq vient de trahir un trop gros secret. »« Le coq a-t-il dit la vérité ?» murmura Monsieur de Saint-Louis. La main de Portal Gérard s'était glissée sous le revers de sa redingote. « À vous deux, murmura-t-il rapidement, tenez l'amitié, mais tenez ferme, et nous allons voir un peu à jouer le jeu qu'il conseille. » « eh bien, disait cependant au dehors la voix frêle et futée du colonel Bozzo, vous me laissez prendre froid, et je suis capable d'y gagner la coqueluche. » « Ah, c'est donc bien vous, papa, repartit le coq. Du diable, si on avait l'idée de vous attendre. Il est plus de minuit, et vous vous couchez toujours avec les poules. »« Je suis allé te chercher chez toi, dit le vieillard, au moment où la seconde porte tournait sur ses gonds. Mais j'ai trouvé nez de bois, et comme j'avais besoin de causer affaire, je suis venu te relancer jusqu'ici. » Le coq s'effaça pour livrer passage. Ce fut en vérité un spectre qui entra, quelque chose de si tremblant et de si cassé qu'on eût dit le squelette même de la caducité, grelottant sous les plis à demi vides de la douillette ouatée. Cela faisait pitié, mais c'était drôle à cause des efforts qu'essayait le spectre pour paraître ingambe et guilleré. Mais cela était terrible aussi, car Portal Gérard baissa les yeux en serrant le manche de son couteau. Il y avait au milieu de ce visage hâve et couleur de terre deux prunelles qui roulaient étrangement, laissant sourdre par intervalles des rayons verts comme ceux qui passent entre les paupières demi-closes des chats. D'un seul regard, le fantôme avait vu et traduit le geste du docteur Endroit. À cette sorte d'escrime, il n'avait jamais trouvé son maître, et avant même d'avoir franchi le seuil, il dit « Ah, cette grosse coquine de Lampion n'est donc pas encore montée, mais... » Ces mots, prononcés avec la mauvaise humeur d'un enfant maussade, étaient le résultat d'un calcul précis. Et ces mots lui sauvèrent la vie, comme aurait pu faire la plus vigoureuse et la plus adroite de toutes les parades. En effet, Portal Gérard, poussé par l'excès même de sa terreur, allait l'abattre d'un seul coup. Au lieu de cela, il retira sa main vide et dit d'un air bourru, « Salut, père, vous avez donc averti en bas ?» Les deux autres se levèrent, disant comme lui, « Salut, père !» Le colonel eut son sourire de casse-noisette agréable et entra appuyé sur l'épaule de Lecoq. Vous eussiez cherché en vain sur ses traits l'ombre d'une inquiétude. Chez lui, tout restait toujours en dedans. « Bonsoir, bonsoir, mes mignons bien-aimés, » dit-il, en leur adressant à chacun le même signe de caresse paternelle. « J'ai eu ma grosse fièvre ce soir, 110 pulsations. Samuel, ma chatte, mais il ne faut pas s'écouter. Si je restais tranquille, je m'engourdirais. Quand je suis arrivé en bas, l'estaminet était déjà fermé. J'ai fait toc-toc à la fenêtre de la cuisine, et Lampion a voulu m'ouvrir, mais je lui ai dit, « Bobonne, je crois que tu as du monde, quoi qu'on n'entende rien. Je vais à l'entresol. Monte-moi de la limonade à l'anis, car j'étrangle de soif. » Il s'interrompit pour ajouter du ton le plus naturel, « Timbre donc, l'amitié, cette Lampion va me laisser étouffer. » Le coq toucha le timbre, mais il pensa, « Le vieux drôle nous a roulé encore une fois, Lampion n'était pas prévenu. »« Ah, mes pauvres bibis !» soupira le colonel en se laissant tomber sur le siège que Samuel et le prince lui avancèrent. « Ah, ne devenez jamais si vieux que moi, c'est honteux de mourir ainsi par petits morceaux. » « Je suis bien content de te voir, Portal. J'ai justement une contrariété de chicane qui m'a agacé les nerfs au moment où j'allais me mettre au lit en quittant cette bonne marquise. Elle ne veut pas en démordre, vous savez. Elle ne consentira jamais à laisser partir les deux enfants sans qu'ils soient bel et bien mariés. La morale, la religion, enfin, vous comprenez, je lui ai promis tout ce qu'elle a voulu. On les mariera et je vous invite à la noce. Mais chut, voici Lampion, nous allons recoser de tout cela. » La face rubiconde de la dame du comptoir parut, en effet, à la porte entrebâillée. Elle ne vit rien, selon la coutume, sinon cinq voiles noires sur autant de visages. « On a appelé, dit-elle. « Ne m'apportes-tu pas ma limonade à l'anis ?» demanda le colonel, qui souriait narquoisement. La grosse dame répéta d'un air idiot. « Votre limonade à l'anis ?» « Sac absinthe !» s'écria le colonel, feignant une colère soudaine. « Je te mettrai à pied, tu bois trop, l'eau de vie te sort par les yeux. Va-t'en, je ne veux rien de toi, je n'ai plus soif. Que personne ne bouge en bas. Il fait jour jusqu'à nouvel ordre. » La grosse femme s'enfuit. Il n'y avait personne désormais dans le confessionnal pour ne point comprendre la ruse du vieillard qui venait d'élever une muraille solide entre lui et toute tentative de violence. Le colonel, du reste, ne se gêna point pour triompher ouvertement. Il se frotta les mains en regardant Lecoq, qui lui adressa un sourire de flatterie. Les trois autres, malgré leurs efforts, ne réussissaient point à dissimuler leur embarras. « Ah bien oui, eh bien oui, » reprit le colonel après un silence. « Vous avez deviné juste, mes trésors. J'ai eu un peu défiance de vous dans le premier moment, parce qu'on serait très bien ici pour assassiner le vieux père. Certes, personne ne viendrait chercher au fond de ce bouge les quelques gouttes de sang refroidi qui se trouvent peut-être encore dans les veines du colonel Bozzocorona. » « J'ai eu tort d'avoir peur, je vous connais. Vous me défendriez tous au péril de votre vie. Mais je ne me repens pas du petit tour que je vous ai joué, parce que cela entretient la main. Il n'est jamais mauvais d'avoir peur, quand la peur n'empêche pas de combattre. Hein, je disais donc, poursuivit-il en changeant de ton, que je comptais trouver l'amitié tout seul et causer avec lui de notre situation, car les choses s'embrouillent, voyez-vous, mes chéris. Je ne me souviens plus très bien de l'histoire de ce Cadmus, roi de Thèbes, qui tua un dragon dont les dents piquées en terre produisaient d'autres monstres, comme les glands font pousser les chênes, mais il nous arrive quelque chose de semblable. Chaque fois que nous tuons un ennemi, trois ou quatre ennemis nouveaux surgissent. Cela me donne du tintouin. Je pense, je rêvasse, je me creuse la cervelle, et ma pauvre santé s'en ressent. Il avait courbé sa tête sur sa poitrine et ses pouces tournaient lentement. Eh, mais le locataire qui s'en mêle, s'écria-t-il tout à coup, avec un vif sentiment de colère. Tire-moi de là, portal, si tu veux que nous restions bons amis. Tu vas me dire que ce sont des misères. Il n'y a pas de misère dans une maison bien tenue, et je suis sûr que cette histoire-là va me coûter encore dans les 300 ou 400 francs. Il parlait désormais d'un ton saccadé avec une extrême volubilité. On pouvait voir que le sujet l'intéressait puissamment et qu'il ne jouait plus la comédie. Les regards curieux de ses compagnons étaient fixés sur lui. « Il y a une loi, » continua-t-il en frappant contre le bras de son fauteuil sa main qui rendit un bruit sec. « La loi est-elle la même pour tout le monde ? Et parce qu'on a le malheur d'avoir fait sa plotte, doit-on être à la merci du premier va-nu-pied qui monte sur les toits pour crier contre les riches et contre les propriétaires ? Voilà le fait. » J'ai acheté la maison voisine de mon hôtel. Entre parenthèses, je l'ai payé trop cher. Mon notaire est un filou. Que nous réglerons un jour ou l'autre, il en vaut la peine. Au cinquième étage de cette maison, il y a un ménage d'employés. Mauvaise engeance, toujours en retard pour leur loyer, et en avance pour demander des réparations. Ce soir, à l'instant où j'allais me coucher, j'ai reçu une lettre de la femme, qui dépense au moins 6 000 francs pour sa toilette, avec les 100 louis d'appointement de son mari. Le siècle va bien, et ceux qui sont jeunes en verront de drôles. Ce que je veux savoir, c'est si je suis forcé de remettre à neuf le fourneau que ces gens-là ont brûlé à force d'y cuisiner toutes sortes de friandises. « Le fourneau est-il d'attache ?» demanda le docteur en droit. « Ben, sans godémie, » s'écria le colonel, « jamais il ne répondrait oui ou non du premier coup. Il y a toujours des si, toujours des mais. La raison dit cependant que dans un logement de 600 francs, on ne doit pas faire pour 1 000 écus de cuisine. Les fourneaux sont en rapport avec le taux de la location, quand le diable y serait. Ah, mais laissons cela, tu me donnerais tort et je veux avoir raison. Je plaiderai, et j'ai bien assez d'aisance, n'est-ce pas, pour flanquer mon locataire sur la paille avec des frais de procédure. Moi, d'abord, l'injustice me met hors de mes gonds. »
Ses paupières baissées battirent pendant qu'il faisait effort pour reprendre son calme. Autour de lui, personne ne parlait plus. Il reprit, en baissant la voix, comme s'il avait eu honte de son émotion. « Les personnes trop vieilles sont comme les enfants. Elles s'imaginent toujours que leurs amis font attention à ce qui les intéresse. » Il eut un petit rire court et sec, puis il reprit d'un ton dégagé. « Excusez-moi, bijou, nous allons parler de vos propres affaires. Nous allons en parler pour la dernière fois, moi du moins, car aussitôt que je vous aurai tiré du guépier où le diable vous a mis, je donnerai ma démission, cette fois irrévocablement. N'essayez pas d'aller contre cela, ce serait inutile. » « Et d'ailleurs, ajouta-t-il avec mélancolie, mes heures sont comptées. Mes chéris, si je ne consulte plus notre bon Samuel, c'est que je n'ai plus besoin de lui pour connaître mon sort. Allons, vous voilà tout attristé. Mais soyez tranquille, je laisserai derrière moi quelque chose qui vous consolera. L'arme invisible est une jolie machinette, et d'ailleurs, nous n'avions pas le choix pour ce bon Remi d'Arx. Les autres armes ne pouvaient rien contre lui, mais l'arme invisible, comme tout ce qui est de ce monde, a ses inconvénients et ses défauts. Elle ne tue pas raide comme un coup de couteau piqué en plein cœur. Remi d'Arx a traîné 2 jours, et c'est beaucoup trop. Ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, je crois le savoir, mais il se peut que j'ignore encore quelque chose. Voyons, trésor, voulez-vous être bien gentil et m'obéir encore une fois aveuglément ?
Il n'y eut qu'une seule voix pour répondre, nous vous obéirons toujours aveuglément.
Les yeux vitreux du maître eurent cet éclat bizarre que nous avons déjà dépeint tant de fois.
« C'est une idée que j'ai, reprit-il. Je la trouve charmante, mais il suffirait d'un faux mouvement, d'une maladresse grosse comme le doigt, pour me la gâter de fond en comble. C'est pourquoi je vous demande de rester complètement passif. Je vous dis complètement. Vous savez, avant de s'éteindre, on dit que les lampes jettent une flamme plus brillante. J'ai vraiment eu un grain de génie ce soir. » Cela m'est venu par l'insistance même que cette bonne marquise mettait à exiger le mariage préalable de nos 2 jeunes gens. Étant donné cette nécessité absolue, où la connaissance qu'ils ont de notre secret nous place vis-à-vis d'eux, ma première idée de les faire disparaître dans une tentative d'évasion était simple comme bonjour. Mais voilà qu'il y a maintenant sous jeu cette bonne femme, la veuve Samayou, qui en sait plus long que je ne voudrais. Notre ami Lecoq n'a pas entendu ce soir tout ce qui s'est dit entre elle et mademoiselle de Villanova. Elle joue serré, la chère enfant, prenons garde à elle. Il y a en outre le marchef, qui a refusé tout net d'aller prendre le verre dans nos pâturages de Sartène. Il y a enfin un certain Germain, le vieux domestique de Remi d'Arx, qui ne l'a pas abandonné un seul instant pendant son agonie. Mais cela fait bien du monde, dites donc. La noce aura lieu, mes mignons, elle aura lieu chez moi. La cérémonie religieuse, bien entendu, car je ne peux pas procurer aux 2 fiancés la bénédiction de monsieur le maire. Commencez-vous donc à me comprendre ?
Il s'était redressé dans son fauteuil et sa respiration devenait haletante. Le docteur Samuel fit un mouvement pour s'approcher de lui, mais il l'écarta du geste.
« Je me vois finir, dit-il, en se retenant des 2 mains au bras de son fauteuil. Je n'ai aucune illusion, et je pourrai faire le compte exact des heures qui me restent, mais ce ne sera pas encore pour cette nuit. Je vous promets d'ailleurs de vous en avertir. Soyez tranquille, je serai de la noce. » Il ajouta avec un sourire véritablement diabolique, « Madame la marquise d'Ornan en sera aussi pour me remercier d'avoir accompli ma promesse. Nous y inviterons également la veuve Samayou, notre bon serviteur le marchef, et même le vieux Germain, domestique de Remi d'Arx. Et vous y viendrez vous-même, mes enfants, pour voir votre maître expirant gagner sa dernière bataille. »